France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. en public depuis le festival Le Livre sur les quais à Morges en Suisse. Aujourd'hui, trois auteurs qui explorent la manière dont nos corps et nos mémoires sont façonnés par la violence. Trois livres qui posent au fond la même question : comment se reconstruire quand tout s'est effondré ?
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
D'abord, nous retrouverons Adélaïde Bon dans son premier roman « Puisque l'eau monte », publié par une maison d'édition suisse le soir venu. Elle nous plonge dans l'histoire de Sybille, une jeune femme qui, à la suite d'un avortement tenu secret et du silence imposé dans son couple, entame une quête intime pour renouer avec son histoire familiale. À travers l'image obsédante de l'eau qui monte, ce texte interroge la dissociation, le consentement et la transmission des traumatismes féminins de génération en génération. Avec nous aussi Anthony Passeron qui, après le succès des Enfants endormis, publie Jackie chez Grasset. Dans ce nouveau livre, il brosse le portrait de son père disparu, Jackie, figure solaire et tourmentée d'un village de l'arrière-pays niçois. En mêlant souvenirs d'enfance et mémoire sociale, console Atari et Sega, rock des années 80, il raconte la désillusion d'une génération, la violence domestique et le silence qui mine les familles. Enfin, notre dernier invité est l'écrivain italo-suisse Joseph Incardona, auteur d'une quinzaine de romans et qui publie cette rentrée « Le monde est fatigué » chez Finitude. L'héroïne de son roman s'appelle Eve et Eve a survécu à un accident qui lui a coûté ses jambes et son enfant. Devenue sirène dans des spectacles aquatiques, elle orchestre une vengeance implacable dans un monde où se mêlent luxe, cruauté et quête de justice. Trois livres, mais une même exploration des failles et de la résilience humaine. Comment retrouver sa place quand on a été effacé? C'est la question que nous poserons aujourd'hui à nos invités avec la complicité de notre libraire suisse, puisque nous sommes en Suisse, Alexandre Dimitrievitch, qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Adélaïde Bon, Anthony Passeron et Joseph Incardona, bonjour à tous les trois. Dans vos livres, on trouve un thème commun, j'en parlais, celui de l'effacement. Effacement du corps, de la mémoire, de l'individu face à un drame. J'avais une question pour vous tous. Sans entrer dans le détail de vos livres, pourquoi est-ce que la disparition, ce qui manque, est selon vous un bon moteur d'écriture ? Joseph Incardona.
Alors, je crois que pour démarrer un roman, il faut toujours qu'il y ait un déséquilibre initial, sinon l'histoire ne démarre pas. Alors voilà, avec cette sirène, on commence in media res, on commence dans l'histoire de quelqu'un qui a une béance dans son corps, mais qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on va apprendre après quelques pages. Donc il lui manque les deux jambes, la partie inférieure de ses deux jambes, mais il y a aussi une béance intérieure, une béance psychologique, un creux en elle. Et d'ailleurs, c'est un être un peu recomposé. C'est une femme qui est quasiment transhumaine parce qu'elle a été reconstruite suite à un très très grave accident de voiture. Et au fond, je crois que dans la recherche de celui qui lui a fait ça, il y a une volonté de se reconstruire, une volonté d'être face à la personne qui l'a meurtri. Il y a un vrai moteur. Alors la vengeance est un grand...
N'en dites pas trop, on en parlera tout à l'heure. Anthony okay. Passeron.
Il me semble qu'une des prétentions de l'écriture, de la littérature, c'est de durer, de survivre au passage du temps. Et il se trouve que je viens d'une géographie qui est en train de disparaître, d'une sociabilité. Et c'est pour ça que je me sers de l'écriture pour sauvegarder ce qui disparaît. C'est pas très original, mais je viens d'y réfléchir.
Non, mais c'est vrai, il y a à la fois l'effacement du père et aussi l'effacement d'un territoire.
Absolument, je viens d'un petit village de l'arrière-pays niçois qui, factuellement, existe toujours, mais avec la métropolisation, le redéploiement du jeu économique, politique, etc., n'a plus du tout la même place, et c'est cette ancienne place-là dont j'aimerais garder trace, oui.
Adélaïde Bon.
Je crois que j'écris pour répondre à des questions, et plus j'écris, moins j'y réponds d'ailleurs, mais... Cette histoire de ce que la violence nous ôte, qu'est-ce qui nous manque après la violence, qu'est-ce qu'on nous prend, c'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Et dans l'histoire de Sybille, elle a rempli cette béance par des phrases, des mots, du langage, des actions. Et petit à petit, au fur et à mesure du livre, elle se défait de ce qui est de trop. Et peut-être par le silence, elle accède à cet endroit de la béance, du trouble, du vertige, où elle va trouver une forme de retour à soi, de calme intérieur. Voilà, dans ce livre-là, c'est cette voie que j'explore de la disparition.
Dans votre livre, Puisque l'eau monte, l'histoire commence par un avortement. Alors dit comme ça, ça peut paraître très, très dur, très trash, mais vous arrivez, je ne sais pas comment vous faites, à injecter de la poésie. Vous avez cette phrase magnifique: au creux des mains, une nuit épaisse allumée d'étoiles rouges, une promesse d'enfant que je ne peux pas tenir. Elle décide de ne pas parler de cette décision d'avorter à son compagnon. Qu'est-ce qu'il raconte ce silence?
C'est un silence générationnel déjà, parce qu'elle a hérité de ce silence. Son père est taiseux, sa mère est bipolaire. Il y a un énorme secret familial autour de la grand-mère maternelle. Et il y a eu un peu avant le début du livre un événement entre son compagnon et elle, pour lequel elle n'arrive pas à poser de mots, sur lequel elle ne peut rien dire. Et qui est d'ailleurs un mot caché, fantôme, qui n'apparaît jamais dans le livre, qui apparaîtra peut-être dans sa conscience si elle existe dans des livres à venir. Le silence, c'est aussi l'incapacité de poser les mots justes au bon endroit, de les attendre.
C'est aussi un marqueur de la dissociation. Au début du livre, elle se compare à un mannequin en plastique. C'est quand même assez fort, ça correspond à une perte d'identité.
Sybille, c'est une femme qui est complètement à côté de ses pompes, qui n'est pas dans son corps, qui vit une identité qu'elle s'est forgée, qui contrôle sa vie, qui s'est fabriqué quelque chose qui lui semble tenir, quelque chose qui semble réussi aux yeux extérieurs, aux convenances, à la conformité sociale. C'est une transfuge de classe. Mais au-dedans d'elle, elle est complètement dissociée, elle ne ressent rien. Et finalement, cet avortement, c'est une façon extrêmement violente, sans doute, et très puissante qu'a son corps de se rappeler à elle. Et c'est aussi un geste de souveraineté de sa part, peut-être le premier qu'elle pose réellement en tant qu'elle-même.
Joseph Incardona, cette question, justement, on parlait de cette image du mannequin en plastique. Ça m'a fait penser à votre héroïne, Nathalie, qui devient Ève après cet accident qui lui coûte les deux jambes. Cet accident qui transforme son corps détruit, ses jambes disparues en un corps de sirène. C'est une transformation quasiment mythologique. Qu'incarne, selon vous, cette image de la sirène ?
Alors déjà, il y a une image, parce qu'il y a le sujet du livre, hein, et puis après il y a les thèmes en fait qui sont sous-jacents, souterrains. Il y a une chose qui me... Je crois que l'image de la sirène, pour moi, c'est une énorme solitude. On les voit toujours, il y en a même une tout près de Genève sur un rocher, elles sont sur un petit rocher toutes seules, et elles regardent au loin. Il n'y a personne autour d'elles. Et au fond, Eve, c'est ça, c'est cette grande solitude. Elle n'a même plus de famille. En fait, sa seule famille, c'est un ami, mais elle n'a plus rien. C'est une dévastation autour d'elle. Et voilà, il y a cet être. En plus, les sirènes sont censées vivre très très longtemps. Et donc, c'est un peu comme le mythe du vampire, au fond. C'est terrible de voir les gens mourir autour de soi et puis d'être éternel, d'une certaine manière, parce qu'on est toujours très seul. Et c'est ça, pour moi, qu'elle représente.
Elle est aussi entre la vie et la mort.
Oui, en permanence.
Aussi elle vit très longtemps, mais comme le vampire, elle est dans un entre-deux.
Exactement. Et en plus, elle l'est effectivement, comme vous dites, c'est un être chimérique qui a perdu la moitié du corps. Elle est entre le règne animal et le règne presque minéral, vu qu'il y a des parties de titane, etc., qui sont composées dans son corps. Et en plus, elle a ces longs moments où, parce que en réalité, les sirènes d'aquarium existent réellement, et ce sont des sportives qui font de la plongée en apnée. Donc en plus, elle a ces moments de... Elle est beaucoup dans le silence et elle ne respire pas. Il n'y a pas d'oxygène. Et donc elle est, entre, comme vous dites, entre la vie et la mort. Elle est en suspension dans l'eau et en suspension dans la vie.
Puisqu'on parle d'effacement, votre roman Jackie, Anthony Passeron, s'ouvre par une épigraphe. Derrière l'histoire que je raconte se trouve celle que je tais. Et vous construisez votre récit autour des jeux vidéo qui rythmaient votre enfance. Comment ces parties de jeu sont-elles venues raconter, d'une certaine manière, l'effacement, celui de votre père et aussi le vôtre ?
Bah justement, dans ce village dans lequel la situation économique périclite, la transmission ne peut plus se faire par le métier. Je suis le premier passeron d'une très très longue génération de bouchers-charcutiers. Quand j'étais à l'université, on voulait absolument me faire dire que j'étais de la famille du grand sociologue Jean-Claude Passeron. Et quand je répondais que j'étais de la famille du boucher-charcutier, c'était une réponse assez déceptive à l'université, je vous le cache pas. Et quand il a été question d'écrire le livre sur la disparition de mon père, il m'est apparu évident qu'il fallait que je mobilise le seul héritage qu'il ne m'a jamais transmis, c'est-à-dire sa passion des jeux vidéo. Et ces machines qui paraissent aujourd'hui d'un autre temps, elles sont une sorte d'objet transitionnel pour décrire un rapport au père qui va peu à peu se déliter. Et ça nous ramène à une époque où on avait une relation concrète aux objets, alors qu'aujourd'hui on est dans une époque de dématérialisation. Et je voulais aussi accessoirement raconter, réhabiliter une culture de seconde zone. Le jeu vidéo, ça reste, quand bien même ça prend de la place économiquement, ça reste sous-valorisé. Et il y avait ce parallèle entre évidemment une géographie de seconde zone et une culture de seconde zone que je voulais pas laisser à la porte d'une maison d'édition.
À la fin, vous écrivez: personne n'a jamais revu Jackie. Il a disparu avec mes consoles de jeux, avec mon enfance, avec la boucherie de ses parents et avec le village que j'ai connu. Enfin, vous dites tout dans cette phrase. Est-ce que c'est ça que vous vouliez sauver par l'écriture, empêcher que tout disparaisse en même temps?
Oui, absolument. Quand je parle à mes élèves qui sont beaucoup plus jeunes que moi, je vois bien que j'ai beau leur expliquer ce que c'est qu'un magnétoscope, j'ai beau leur expliquer qu'il faut rembobiner une cassette vidéo, j'ai beau leur expliquer qu'à l'époque, les jeux vidéo, on les trouvait dans des grosses cartouches en plastique, qu'il fallait souffler dedans si ça marchait pas, mais ça reste absolument abstrait pour eux. Et là, je me rends compte qu'évidemment, on est dans une histoire qui s'accélère tout le temps. Et je me disais que voilà, je voulais garder aussi cette part de notre histoire collective.
Adélaïde Bon, Joseph Incardona, Anthony Passeron. Dans un instant, on parlera de la question du corps, qui est centrale dans vos trois romans. Mais d'abord, on écoute Mickey, Particule.
Quelle heure il est? Est-ce que t'es au tel avec elle? On peut sans que se réveille, qu'elle te raxère. Quelle heure il est dans ta tête? Tu prends la poudre des scampettes. Tu t'en fiches et qui se jette, qui se remplace. Et si mon tel vibre, c'est que Vinted ou ma grand-mère. Que toi qui peux te taire dans ces moments. Il me suffirait d'un mot, mais le grain de ta voix me fait déjà savoir qu'elle s'est fait sa place auprès de toi. Je suis qu'une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de. Je suis qu'une particule, quand je m'approche, je me brûle. Si je m'éloigne, je te perds, à quoi ça sert? Je suis qu'une particule. Avec ma coupe de blaireau, alors que c'était peut-être la terre, des terres, des terres, des terres, des terres, des terres. Toi t'étais tellement beau, t'es beau quand tu rougis quand tu parles d'elle. Mais dis t'inquiète, c'est pas la peine, c'est quand même pas une top modèle. Mais qu'est-ce j'en ai à foutre, puisque tu cèdes.
Vous écoutez Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie d'Adélaïde Bon, de Joseph Incardona, d'Anthony Passeron et de notre libraire suisse, Alexandre Dimitrievitch, de la librairie Delphica à Genève. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lilia.
Alors vous avez lu le livre d'Adélaïde Bon et ça tombe bien, vous en avez pensé le plus grand bien.
Oui, et je dirais en deux mots que j'ai trouvé votre livre quand même un peu oppressant, mais très très bon dans son genre. C'est un beau texte avec de jolies trouvailles, un panel d'images et d'atmosphères qui m'ont habité du début à la fin. Et puis évidemment, il y a cette eau qui monte, protéiforme, sombre, innommable. Je ne sais pas si elle est le symbole ou l'origine de la folie qui guette vos personnages, mais on apprend à votre lecture, et je trouve que c'est factuel, qu'elle est l'endroit d'où proviennent les légendes, et comme un symbole dans lequel se termine votre course-poursuite finale que j'ai trouvée vraiment haletante. J'ai trouvé aussi que c'était le roman de celle qui décide bien malgré elle de dire non à la reproduction du malheur. En psychogénéalogie, on a coutume de dire que ces malheurs transgénérationnels sautent parfois une génération. Et vous nous donnez ici des pistes qui soutiennent cette croyance et qui nous donnent envie de partir à l'enquête à notre tour. Mais tout ça, vous le faites en toute poésie et en sensibilité sans jamais le marteler. Ce que vous nous dites seulement, c'est que tout ce qui existe, tout ce qui sait, pour rejaillir sans crier gare. En plus de tout ça, la catastrophe de Lubrizol que vous évoquez, les sécheresses et les aspérités des vies d'avant, donne à ce récit un caractère étrange à la frontière du réel et d'un imaginaire très riche et très mystérieux. Bref, j'ai trouvé ce texte merveilleux au premier sens du terme.
Et je crois savoir que c'est surtout la plume d'Adélaïde Bon qui vous a séduit.
Oui, voilà, j'ai été très touché par votre style. J'ai trouvé que votre écriture se déployait de façon très sensorielle et j'ai été transporté dans le marais que vous évoquez grâce à cette atmosphère lugubre et oppressante que j'évoquais avant. Et par moments, votre prose, je l'ai trouvée quasiment hypnotique et je me suis noté le mot litanie et elle laissait transparaître une sensibilité profonde. Bref, ces passages plus poétiques m'ont permis de visualiser des images plus apaisantes qui sont venues contrebalancer toute la violence symbolique et l'indifférence ressentie par la narratrice dans le monde réel.
Adélaïde Bon, est-ce que vous voulez réagir ?
Déjà, je suis très émue. Merci infiniment.
C'est vrai qu'il y a une tension entre votre style qui est très poétique et la violence de ce que vous racontez. Est-ce que c'était voulu ou juste vous êtes comme ça ?
Moi, je crois que on ne peut pas éclairer la nuit sans lumière. Et donc, comme ce qui m'intéresse quand même, c'est la nuit, pour vous y emmener, je dois mettre de la beauté, je dois mettre de la lumière. Et le langage me permet ça, pour vous entraîner avec moi dans ce monde de sensations, de très organique, d'être sous la peau de Sibylle, avec elle. J'ai trouvé ce moyen de cette langue, de ce souffle qui me permet de descendre au plus précis, au plus profond. Voilà, ça, c'est pas venu d'un seul coup, ça m'a demandé pas mal d'errance et de trouver justement par où vous emmener là. Parce que ce que j'avais envie d'explorer, de raconter, effectivement, c'était assez oppressant au départ. Voilà.
Et sur la forme, Alexandre Dimitrievitch avait une question pour vous.
Oui, vous évoquiez le fait qu'on était sous la peau d'Adélaïde et vous employez ce « je » tout au long de votre texte. Et moi, j'ai eu l'impression que ce choix m'avait obligé un peu en tant que lecteur à vivre chacune de ces actions, aussi violentes que soient-elles, dans leur intégralité. Et j'insiste que ça m'a vraiment bousculé. Et je me demandais pourquoi vous n'aviez pas choisi de vous démarquer de votre narratrice en lui prêtant un « elle » plus commode.
Eh bien, vous ne sauriez taper plus juste. Figurez-vous que je l'ai écrit au L, mais que ça résistait. J'y étais pas. Et mon éditrice de l'époque m'a dit « tu devrais passer au jeu ». Et quand elle m'a dit ça, j'étais terrifiée. Et je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi c'était mais jamais de la vie. Je pourrais passer au jeu, je n'y arriverais pas, c'est impossible. Et je lui ai fait toute une scène dans un café en disant que c'était impossible, c'était contraire à tout ce que je voulais faire. Et après, je me suis beaucoup questionnée sur cette scène et cette émotion qui m'avait saisie. Donc d'abord, comme je suis têtue et peureuse, je l'ai passée au tu, intégralement, ce qui en a fait un espèce d'édifice littéraire imbuvable, franchement, mais voilà, après je suis passée au jeu et le jeu a tout transformé. Et je crois que ce qui me terrifiait tellement, c'est que, évidemment, en passant au jeu, j'étais obligée d'aller moi-même beaucoup plus bas beaucoup plus profondément dans l'obscurité de Sibylle. Et comme c'est ma première fiction, j'ai découvert aussi, j'ai écrit un premier texte qui est un récit où je raconte les conséquences sur ma vie du viol que j'ai subi. Donc je pensais que quand même, en termes d'intimité, voilà, j'avais déjà quand même mis mes mains dans la gadoue. Et en passant au jeu, c'était terrifiant d'intimité pour moi. J'ai eu le sentiment d'aller dévoiler des choses protégées jusqu'alors. Donc tant mieux que vous aussi vous ressentez ça en le lisant, parce qu'en l'écrivant, moi je me suis sentie vraiment à nu, beaucoup plus qu'en écrivant ma propre histoire.
Merci Alexandre. Vous aussi, Anthony Passeron, vous usez de la première personne du singulier, et pourtant vous parvenez à ne jamais être nombriliste. Comment déjà faites-vous et que voulez-vous raconter de livre en livre comme ça, en tissant l'histoire de votre famille?
Oui, c'est vrai que l'écueil principal de la première personne, c'est le nombrilisme. Et comme Adélaïde, pendant l'écriture de ce roman, j'ai réalisé que depuis toujours, j'écrivais pour m'adresser à un père qui n'est plus là, qui n'est plus à portée de dispute, si j'ose dire.
Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec votre titre, c'est une fausse piste. C'est-à-dire que le titre Jackie nous laisse penser que vous allez commencer à la troisième personne.
Absolument.
Et que vous allez raconter sa vie.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est la relation.
Exactement, tout à fait. Et j'ai songé aussi à la seconde personne. Et là, tout d'un coup, j'avais quand même peur de l'écueil du nombrilisme, parce que je voulais que le lecteur se sente davantage impliqué que témoin. Donc forcément, je suis restée au jeu. J'ai gardé le titre Jackie pour deux raisons. D'abord, parce qu'il est une signature de la classe moyenne et populaire, et que c'est tellement fort dans l'identité de mon père et de ma famille que je voulais absolument le garder, et parce que je connais des Jacques qu'on n'appellera jamais Jackie et des Jackie qu'on n'appellera plus jamais Jacques, et c'était assez
elle
important.
Elle est bien cette phrase.
Ouais, je l'ai bossé un peu avant de venir, mais c'était important pour moi de garder ce titre-là, et le moteur de mon écriture, c'est quand même l'absence de mon père. C'est pour ça que j'ai surtout pas envie qu'il revienne, parce que j'aime beaucoup écrire, et c'est une manière, voilà, de reconnaître le moteur qui se cache derrière cette activité.
Mais maintenant que vous avez écrit sur votre père, vous allez écrire quoi maintenant?
Oui, c'est la question que je me suis posée. Je me souviens qu'après Les Enfants Endormis, on m'a dit: maintenant vous serez obligé de faire de la fiction, parce que vous avez raconté l'histoire de votre famille.
Pas forcément, en plus,
Les Enfants Endormis est un roman extrêmement triste, donc j'espérais que toute ma vie ne soit pas contenue dans ce petit livre-là, et je pense pas égrener tous les membres de la famille livre par livre, même s'il y a quand même des gens qui mériteraient des livres. Mais
on verra le prochain.
Voilà, exactement, suspense.
Dites pas ça, parce que je m'en souviendrai. Joseph Incardona, vous avez choisi la troisième personne du singulier, vous, pour raconter Ève, et pourtant on se sent proche d'elle, on est vraiment avec elle. Vous n'aviez pas envie de vous glisser sous la peau de la sirène?
Bah j'avais ça, en fait, quand on est en jeu, on est obligé d'avoir toujours le point de vue du narrateur ou de la narratrice. Donc j'avais envie de pouvoir m'extraire avec. Alors c'est ce que fait habilement Anthony, c'est-à-dire il s'extrait avec ses récits sur les jeux et sur les destins singuliers de leurs inventeurs. Et donc on respire un coup, on prend. Et par contre, c'est très fin et très habile ce que tu as fait là, parce que ça permet, en plus, d'avoir un regard plus social et plus historique. Moi, j'avais envie d'avoir justement ces retours. Par exemple, quand je fais une description du milieu, par exemple, des villas aristocratiques bourgeoises et de nouveaux riches également, qui sont au bord de Genève, ou alors de pouvoir m'extraire et de pouvoir parler du monde, justement, ce monde fatigué. Donc, mais il y a une chose qu'une lectrice m'a dite. Elle m'a dit: c'est une troisième personne où j'ai l'impression que je suis juste derrière l'épaule d'Ève.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Je suis proche.
On est très très proche.
Et ça, c'est une chose que je le cherchais, je crois, intuitivement, inconsciemment, et je crois que je m'en suis approché, d'être juste comme avec une caméra à l'épaule. Enfin, le jeu, ce serait une caméra où
oui, parce
on est
que
à la place de la caméra.
Le narrateur est tellement proche qu'on ne sait pas si on est dans ses pensées à elle. ou dans les pensées vraiment d'un narrateur.
Oui, ça se mélange parfois. Mmh. C'est comme s'il y avait une caméra qui était juste là et on a le personnage en amorce et on le suit tout le temps au plus près. Mais ça me permettait en même temps de pouvoir m'extraire et justement de faire parfois des réflexions du narrateur qui sort un peu et de mélanger parfois les réflexions. Je sais pas si c'était.
C'est intéressant que vous parliez de caméra. Vous pensez en image, vous écrivez en image.
Je suis un peu le fils de mon époque aussi. Vous voyez, j'ai été beaucoup nourri aux séries, aux films. Et c'est vrai que, bon, Italo Calvino disait que l'écriture, c'est toujours l'écran intérieur. On part toujours d'une image. Même si c'est une écriture plus intime, il y a une image qui se met sur le papier qui va restituer une image au lecteur. Mais, effectivement, j'ai vraiment cette vision, effectivement, c'est des images qu'il faut transposer en écriture, et c'est là où l'écriture prend ensuite le dessus.
Alors, je parlais du corps tout à l'heure. Dans Le Monde est fatigué, le corps d'Ève est mutilé, reconstruit. J'aimerais que vous nous lisiez la description que vous faites de ce corps.
Ève saisit le bas de son t-shirt, remonte les bras, dénudant son torse. Deux seins parfaitement circulaires, mamelon finement recousu par-dessus le silicone, derme reconstituée en lieu et place des plaies qui l'ont déchirée. Une longue cicatrice, très désormais à peine visible sous le bronzage, côté gauche du ventre plat et musclé. Sur le bas-ventre, sa sœur jumelle, une césarienne en forme d'imperceptible sourire. Les bras sont dessinés comme ceux d'une danseuse étoile, mince et vigoureux, parcourus de veines bleues délicates, sans artifice. Les épaules, comme les bras, sont une ode possible à la grâce, et le dos est une architecture ciselée. Tous les muscles essentiels y sont dessinés. Puis elle s'assied sur la chaise. Elle ne peut pas continuer debout, risque de tomber. Replie donc ses jambes, tire le bas de son pantalon avec ses mains. Ses cuisses sont fuselées par des milliers d'heures de nage. Elle a des genoux fins qui tiendraient chacun dans une main d'homme. Après, il y a une béance. Deux prothèses en titane, deux merveilles de technologie imprimées en 3D à la façon d'un grillage dessinant les formes supposées de la jambe, du mollet et de la cheville. Et lorsque Ève se relève, à part ses baskets sur ses pieds artificiels, elle est nue, belle ou monstrueuse, de façon transhumaine, apparaissant en suspens sur du vide. Son corps sculpté, recomposé, artificiel et désirable à mes yeux, même dans son imposture. Le triangle roux de son pubis est posé au milieu de l'étrange et de l'incompréhensible, appelle à une sexualité si peu assouvie désormais. Qui voudrait d'elle une fois la vérité ainsi révélée ?
Alors, j'adore ce passage. Votre héroïne, vous la décrivez comme à la fois monstrueuse et magnifique, objet de fascination et de rejet. Qu'est-ce qu'il dit, ce corps recomposé de notre époque et de la marchandisation aussi des corps ?
Bah oui, il y a cette idée du corps soutenu par les technologies. Mais en l'occurrence, là, elle s'en serait bien passée. Parce qu'en plus, quand elle a eu son accident, elle était dans un moment de pur bonheur. Et en fait, elle est reconstituée par fragments. Et d'ailleurs, il y a une partie, il y a deux ou trois pages dans le livre où je raconte comment plusieurs chirurgiens autour de son corps travaillent en même temps pour lui sauver la vie et la reconstituer. Il y a quelque chose, en fait, votre question me suggère ce croisement entre un monde de Cronenberg, finalement, et puis les non-lieux de Marc Auger. Parce qu'il y a quelque chose de terrible quand on doit se pencher sur un corps pour l'opérer, le soigner. On l'ouvre, il y a une forme de... Enfin, on est complètement livré, on est endormi, on est livré au chirurgien, on révèle même ses entrailles, il n'y a plus de pudeur possible. Et d'une certaine manière, tout le monde est entré dans son corps, des mains, des scalpels, des objets, et puis des matériaux aussi qui la reconstituent. Donc il y a quelque chose de l'ordre du consommable aussi, avec cette idée de transhumanité.
Adélaïde Bou, Anthony Passeron, Joseph Incardona, on se retrouve dans un instant. On entrera dans vos ateliers d'écriture.
Près d'un fleuve, je suis né. Depuis, je flotte avec le flux dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc j'existe et je respire et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis j'étais un temps dans le coma. Mais voilà, je me réveille et je vous apporte des fleurs, des chocolats depuis le trou de cul de l'enfer. Je réapprends à marcher, je donne des noms aux choses. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je veux être à nouveau surpris, je veux être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux au milieu des choses. Et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal. Pas mal tout ça. Aussi loin que je peux, car chaque chose c'est un cadeau. C'est juste l'emballage qui fait chier. Et on a beau à essayer, on arrive à peine à enlever ce joli papier. Autant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment, aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Oh oui, je veux. Oui, je veux. Je reste éveillé la nuit, je rêve des plus belles mélodies qui flottent dans l'obscurité. Je flotte avec elle, quelque chose en moi veut briller et aller vers le ciel. Puis une batterie commence à battre, pousse le beat derrière ma tête. Une basse colle à la grosse caisse, une guitare va de l'avant. Et quelque part dans le néon siffle un Arsène Céleste. Tout se met en mouvement, toute la salle balance. Et j'attends des voix des anges, et tout le monde chante avec elle. Et chante, now I'm in the darkness, baby. You're gonna be safe by rock and roll. Oh oui, je veux.
C'était Stéphane Escher, le plus léger au monde. Et nous sommes toujours en compagnie d'Adélaïde Bon, d'Anthony Passeron et Joseph Incardona. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Anthony Passeron, votre premier roman, vous en parliez tout à l'heure, Les Enfants Endormis, a été un grand succès critique, populaire. Vous y racontiez le cataclysme produit par la maladie de votre oncle, toxicomane, dans un petit village du Sud, à une époque où le sida était considéré comme, comme une infamie. Est-ce que vous aviez la pression pour ce deuxième roman ?
Je ne sais pas si j'avais la pression, mais c'est-à-dire que Les Enfants Endormis, ils ont été refusés par 27 maisons d'édition.
Ah, c'est bien, ça donne du courage.
Oui, voilà, ne lâchez rien. Et accessoirement, j'ai eu que 4 refus parce que les autres n'ont jamais accusé réception du manuscrit et un seul accord. Et tout d'un coup, on bascule dans une autre dynamique qui est qu'on attend un roman. Alors que j'avais passé 10 ans de ma vie à essayer d'imposer un roman dont personne ne voulait. Et là, tout d'un coup, y a une peur un peu panique qui est que mais ils attendent tellement un roman que je ne sais pas si je vais leur donner celui qu'ils veulent. Quand j'ai commencé à écrire les premières phrases de Jackie, Je les ai relus et je me suis demandé si c'était une suite digne d'un premier roman, enfin de mon premier roman en l'occurrence. Et très vite, je me suis dit que voilà, ce genre de réflexion était un peu dangereuse et qu'il fallait aller de l'avant. Et j'ai complètement évacué parce que je ne sais pas gérer une angoisse. Soit je suis pétrifié complètement, soit j'en ai absolument rien à faire. Donc j'ai décidé de n'en avoir rien à faire. Donc c'est comme ça que j'ai géré la question.
C'était quoi les raisons est-ce que les maisons d'édition vous ont dit pourquoi elles ont refusé votre manuscrit?
Alors les rares qui m'ont répondu, il y en avait une qui croyait pas du tout à cette structure entre l'intime et le collectif, ce qui m'ennuyait beaucoup parce que c'était quand même là-dedans que j'avais réussi à écrire, donc je me voyais pas enlever la moitié du livre. Et après il y a eu aussi qu'on était dans un monde post-Covid, il y a eu beaucoup de gens ont eu peur de cette histoire de pandémie en se disant que le lecteur en avait assez des virus et qu'il voudrait surtout plus jamais en entendre parler.
Bah, la preuve que non.
Exactement.
Vous, Adélaïde Bon, c'est votre premier roman, mais votre deuxième livre, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi avoir voulu passer au roman et que peut le roman que ne permet pas le récit?
Déjà, après avoir écrit La petite fille sur la banquise, j'avais le sentiment d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Tout ce qui, dans mon histoire, était politique. Et j'avais pas de désir de raconter autre chose. La petite fille sur la banquise, c'était vraiment un livre politique de ce point de vue-là, de permettre à mes sœurs et frères de banquise de gagner du temps de vie en entier, de transmettre les choses qui m'avaient permis d'avancer. Écrire des romans, c'est mon rêve depuis gamine. simplement à 9 ans, il m'est arrivé une grosse tuile et après j'ai cessé.
C'est plus qu'une tuile. Hein.
Voilà. Et j'ai écrit que de la haine de soi pendant des années. Et je croyais, après avoir écrit La petite fille sur la banquise, que ça allait être simple. Que ça y est, maintenant que j'avais lâché ma grosse Valda, j'allais pouvoir m'asseoir à une table et que, la déesse de la transmission, de la création, allait tomber sur moi et que j'allais écrire. Et ben non, pas du tout, ça m'a pris 6 ans. Comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, j'ai fait mille et une versions de ce texte. J'ai beaucoup erré. J'ai fait une première version, puis il y a eu le Covid. La société a tellement changé. Je me suis dit, en fait, je comprends plus rien à la société dans laquelle je vis. Comment je peux situer un livre aujourd'hui? Et du coup, j'ai résolu cette question en le situant jusqu'en décembre 2019. Comme ça, bon, voilà.
Il y a quand même des points communs entre vos deux livres, et notamment l'eau. L'élément aquatique dans votre premier livre, donc qui est un récit, il était question du viol que vous avez subi quand vous aviez 9 ans et vous parliez des méduses pour décrire votre souffrance et là c'est l'eau qui monte.
Alors, je suis une fille des lacs et je dis ça face au lac Léman qui miroite devant nos yeux. Ma famille paternelle est originaire du bord du lac d'Annecy. J'y passe toutes mes vacances. L'eau a été dans ma vie un espace, un lieu de paix, de quiétude, d'abandon, de consolation. Et mon imaginaire a toujours été extrêmement porté par l'eau, par la mythologie autour de l'eau. Et puis l'écriture, le langage, il y a quelque chose de l'eau, évidemment, dans la façon dont ça coule. Après, dans La petite fille sur la banquise, j'ai travaillé des phrases très sinueuses, comme les méduses, avec un rythme lent, implacable, dangereux, avec une scansion lente, avec des phrases parfois plus courte, mais cette chose-là du rythme, alors que là, c'était tout à fait autre chose. C'était du ruisseau, c'était de la tempête, c'était de l'ouragan, c'était de l'eau très vivante. Et donc, la scansion, le rythme s'est trouvé complètement transformé dans mes phrases par... c'est pas la même eau. Voilà.
Joseph Incardona, dans votre livre aussi, il y a cet élément aquatique, par définition. Je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais de quoi l'eau est-elle le nom, précisément, dans votre livre?
C'est le silence, enfin, ce qui est faux, parce que, par exemple, les baleines souffrent énormément des vibrations. Hein. Un moteur dans l'eau, se répercute sur des kilomètres. Mais pour Eve, c'est le silence. Pour un être humain, en général, on est dans quelque chose où, ben, comme je disais avant, on ne respire plus. Et on sent aussi de manière beaucoup plus
mais les aquariums,
son intériorité.
C'est aussi des espaces, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau enfermée.
Oui, c'est de l'eau enfermée. Alors ces aquariums, par exemple, si on prend l'aquarium de Paris, c'est une eau qui est à 19-20 degrés, une eau salée, une eau océane. Et puis par exemple, quand ces sirènes professionnelles font leur spectacle, en réalité, donc elles sont dans une eau froide, elles descendent en apnée, il y a des raies manta, il y a des requins marteaux, il y a une vraie vie. Et en plus, elles ne voient rien. On croit que parce qu'elles font des bisous-bulles, elles saluent derrière la vitre de l'aquarium, des vitres très épaisses, mais elles mettent des gouttes de collyre dans les yeux parce que ça les brûle. Elles ont le maquillage waterproof et puis elles sont là un peu comme des espèces de petites poupées Barbie qui sourient, qui font des baisers-bulles, puis les enfants s'extasient parce que ce sont des spectacles pour les enfants, souvent accompagnés des grands-parents et les grands, voilà. Et donc il y a quelque chose derrière ce spectacle qui peut avoir l'air superficiel. Il y a beaucoup de souffrance, il y a des vrais athlètes derrière, et en même temps chez Eve, voilà, c'est ce monde qui s'écroule à l'intérieur d'elle-même. Je voulais juste ajouter une petite anecdote, parce que Tony, il a eu la chance d'avoir un premier roman qui a eu beaucoup de succès. Moi, en 2002, j'ai publié mon premier roman qui s'appelait Le cul entre deux chaises, qui était publié par Delphine Montalant, qui était à l'époque la compagne d'Eric Walder. Et le roman a dû se vendre à 700-800 exemplaires. Mais quand même, au deuxième, elle me dit, tu sais, le prochain roman... quand même, c'est le deuxième roman, tout le monde va t'attendre au tournant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un recueil de nouvelles.
Ah ben voilà, ça c'est... peut-être que vous y penserez, Anthony Passeron, pour la prochaine fois. Anthony Passeron, puisqu'on vous a donné la parole, votre titre à vous, c'est Jackie. On en a parlé tout à l'heure. Jackie, c'est un boucher du sud de la France, un homme solaire et violent à la fois, passionné, mais broyé par les transformations sociales et économiques qui l'entourent. Comment vous le définiriez, vous, ce père ?
Grâce à mon travail d'écriture, je suis peut-être plus à même d'en parler aujourd'hui. Je pense qu'il appartient à cette dernière génération dans laquelle le modèle s'est reproduit. Le modèle professionnel, on en parlait tout à l'heure, mais aussi le modèle masculin, le modèle de la paternité. Et pas de chance pour lui, il va avoir deux fils qui ne correspondent pas du tout à ses valeurs à lui, qui sont celles de la force, du travail, en tout cas du travail physique, surtout pas du travail intellectuel, qui sont deux enfants extrêmement sensibles, passionnés par des objets qui ne rapportent rien, qui ont plutôt tendance à coûter d'ailleurs. Et souvent, je me suis demandé si justement ce fait d'appartenir à la dernière génération d'un modèle, si c'est pas ça qui a précipité son départ, comme s'il n'avait pas voulu assister lui-même à la fin de son espèce.
Mais disons ça, vous placez comme responsable d'une certaine manière.
Oui, absolument. Mais je pense que pendant très longtemps, justement, comme je disais, je correspondais pas au canon masculiniste du village, et pendant très longtemps j'ai déçu ce père qui attendait de moi de la force, du courage, etc. Et pendant longtemps, le vrai drame de ma vie, c'était pas tant que mon père m'ait abandonné. Le vrai drame de ma vie, c'est de penser qu'il m'avait abandonné parce que j'étais pas assez fort, pas assez courageux. Et c'était là la vraie blessure narcissique, elle était plus à cet endroit-là. Donc c'est pour ça que le thème du modèle masculin, de ce qu'on appelle aujourd'hui le virilisme, est aussi présent dans le livre. Ça, c'était pas prévu du tout.
Et qu'est-ce qui vous a laissé en héritage, votre père ? Qu'est-ce que vous avez de lui ?
Alors c'est très compliqué parce que j'évolue dans un monde où c'est très compliqué d'assumer son héritage. Maintenant que je suis dans les blagues, voilà, les blagues genre les grosses têtes, ça c'est l'héritage de mon père et je peux pas les manier dans n'importe quel milieu et notamment dans les salons littéraires, alors que j'en ai des très bonnes, c'est dommage.
Si, allez-y.
Non. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre-là et en même temps c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est toujours intéressant de chercher à se réinventer. Il y a énormément de choses qui ne me convenaient pas dans ce modèle de masculinité, donc je suis aussi content à ma manière d'évoluer dans une temporalité et une géographie sociale dans laquelle il y a tout un tas de masculinités alternatives et dans lequel on peut plus facilement trouver sa place.
Sur la réflexion autour des jeux vidéo, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, juste je voulais le citer. Vous écrivez « En jouant aux jeux vidéo, je veillais à ne jamais faire tomber mon personnage dans un précipice. À chaque fois que j'ai pu, en comptant, recomptant les secondes dans ma tête, en crachant ma salive, en prenant garde où je posais mes pieds, j'ai sauvé la vie de mon père. » Et j'aime bien ce passage parce que c'est de la pensée magique et on a l'impression vraiment que les jeux vidéo c'était aussi une forme de pensée magique pour vous.
Oui, absolument. pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai débordé de pensées magiques. Je pensais que j'étais responsable de chaque drame parce que j'avais pas mis le pied au bon endroit, etc.
Mais il faut de la pensée magique pour écrire, non ?
Exactement. Et surtout, je voulais l'intégrer à l'écriture en tant que telle. C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel je voulais à la fois assumer le prénom de mon père, assumer cette géographie et aussi assumer ça. C'est ce moment de désarroi des enfants et qui font qu'il y a une part de leur imagination qui dérive. Et pour moi, c'était une manière de faire un clin d'œil au lecteur en pensant que sûrement lui aussi, à un moment ou un autre de sa vie, il avait connu cette pensée magique-là et pour créer du commun avec lui et essayer de lui dire on est un paquet dans le cadre.
C'est réussi. Adélaïde Bou, Anthony Passeron, Joseph Incardona, on se retrouve tout de suite. Mais d'abord, on écoute Mathieu Bogaerts. Il faut toujours écouter son corps.
Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit somnol, il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Il le faut, c'est un conseil pour vous. Ça rassure, ça résout, pour être sûr. Courir. Quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir.
Au livre, etc. Et c'est maintenant l'heure des questions du public.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Avant le conseil lecture de notre libraire du jour, et puisque nous sommes en public, je crois qu'il y a une question dans le public. Bonjour madame.
Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. Bonjour Joseph Incardona.
C'est une question pour Joseph Incardona.
Votre œuvre, oui. Vous avez toujours eu une écriture très cinématographique. Quel film aurait pu vous inspirer votre héroïne ?
C'est-à-dire un film qui aurait inspiré ce roman ? là, pour le coup, j'en ai pas. Ce sont effectivement des images comme ça, des images. Par exemple, quand j'étais gosse, en Sicile, où j'allais en vacances chez mon grand-père, il y avait Enzo Maiorca, qui, vous savez, celui du Grand Bleu, avec Jacques Mayol à l'époque, qui faisait de la plongée en apnée. Et je le voyais sur son petit bateau avec son frère, ses cousins, ils s'entraînaient. Et c'est vrai que j'avais 9 ans à l'époque, je tournicotais là autour et ça me fascinait de les voir plonger. Enfin, l'eau, pour moi, a toujours été un élément, comme pour toi, fondamental. J'avais l'appel de la mer, c'est-à-dire que quand on arrivait en vacances avec la voiture, déjà 10 km avant, je commençais à me déshabiller. J'avais déjà mon maillot de bain dessous, puis dès qu'on arrivait à la plage, je courais. Parce que bon, en Suisse, on a des lacs, mais on n'a pas la mer. Donc voilà, j'avais cette espèce d'appel comme ça. Et donc, en ça, sur les scènes de description, notamment quand elle nage dans l'océan ou en Australie, etc., il y a beaucoup, j'ai fait un petit peu de snorkeling comme ça. Et il y a ça qui est revenu. Mais je n'ai pas vraiment de film qui m'a interpellé par rapport à ça. Il n'y en a pas beaucoup.
On pense forcément aussi à Titane de Julia Ducournau. Est-ce qu'il y a des adaptations envisagées pour votre livre ?
Alors, il y a eu une première demande, oui, d'une production. Mais c'est vrai que Titane, voilà, Julia pourrait être... Je pense que c'est un univers qu'on peut avoir en commun. Et il y a quelque chose, encore une fois, de Cronenberg. C'est marrant parce que Cronenberg était un réalisateur qui, dans un premier temps, m'a beaucoup dérangé. Quand j'étais plus jeune et j'y suis arrivé, mais il m'a fallu, parce qu'à chaque fois il distord les choses et je me souviens de Crash par exemple, et là il y a quelque chose aussi de Crash, c'est Ballard dans la trilogie du béton, mais il y a quelque chose en lien avec cet univers là.
Anthony Passeron, les enfants endormis, vous avez eu des propositions d'adaptation?
Oui, il y en a eu plusieurs. Finalement, on est en train de travailler avec une société qui s'appelle CG Cinéma, les films du Losange. C'est une grande satisfaction et en même temps, je regarde ça de très très loin parce que d'abord, j'ai une très grande confiance en eux et je sais que j'ai envie de les laisser travailler vraiment tranquille. Moi, mon médium, c'est l'écriture. Je ne suis pas du tout capable de conseiller des gens qui travaillent dans l'image. Je regarde ça de très loin, vraiment comme n'importe quel autre spectateur.
Bon, on attend le film avec impatience. Alexandre Dimitrievitch, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes libraire à la librairie Delphica à Genève. Si Adélaïde Bon venait dans votre librairie, quel livre lui conseilleriez-vous ?
On l'a un petit peu évoqué en off, mais j'aimerais vous faire découvrir le premier roman de Mathilde Ancelin, La saison des bêtises, parce qu'on y retrouve une quête existentielle similaire, mais avec une frontière bien plus franche entre l'autrice et l'univers de sa narratrice. Je veux dire par là qu'on assiste aussi à une scène de bad trip dans un métro, un avortement, à une relation mère-fille très périlleuse, mais que l'ensemble de ces actions se déroule dans un scénario que j'ai trouvé davantage construit, qui m'a permis en tant que lecteur de prendre de la distance et d'accueillir toutes ces idées sans être trop submergé par l'émotion. Donc il s'agit d'une aventure qui se déroule entre Berlin et Paris, à cheval entre la nuit et les petits matins, où il est question de la jeunesse, de la fête et du vide existentiel qui peut nous habiter dans les étapes clés de notre vie. Et trigger warning, on y parle de consommation de drogue récréative. Bref, c'est un livre que j'aimerais conseiller d'ailleurs à toute personne qui a connu ce monde ou qui aurait envie d'en parler de manière détournée à un proche.
Merci Alexandre. C'est quoi l'histoire, juste en quelques mots ? Parce que là, vous nous avez donné les thèmes, mais...
Ouais, alors en quelques mots, Mathilde Ancelin, elle va donner naissance à Victoire. Et Victoire, c'est une jeune fille qui, habitant à Berlin, va un peu succomber aux sirènes de la nuit. Elle va revenir à Paris, va rencontrer quelqu'un qu'elle va penser être l'heureux élu pour la maternité, et ça va pas se passer comme elle le veut, et il va vraiment y avoir une plongée dans l'inconscient. Et il y a ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'on y parle de drogue sans détour. Si vous ne connaissez pas le milieu de la drogue, c'est quand même important d'avoir les termes de temps en temps et d'entendre des gens qui ont l'air d'avoir un petit peu connu tout ça pour en discuter.
Bon, c'est un livre qui parlerait à nos trois invités finalement.
Je pense.
On parlait des sirènes de la nuit en plus.
Et c'est absolument pas moralisateur.
Merci beaucoup Alexandre. Le titre, c'est donc La saison des bêtises de Mathilde Ancelin aux éditions Les Avrils. Et c'est la fin de cette émission. Merci aux auteurs du jour, Adélaïde Bon avec Puisque l'eau monte aux éditions Le Soir Venu. Très beau texte à la fois cru et poétique, qui relie l'intime et le politique. On conseille aussi Jackie d'Anthony Passeron chez Grasset, roman de la désillusion et de l'éclatement de la cellule familiale, roman finaliste du prix Blue Jean-Marc Roberts, bonne chance. Et Joseph Incardona chez Finitude, un texte d'imagination très original qui se démarque cette rentrée. Le livre figure dans la sélection du prix des Deux Magots, du prix des Cendres, finaliste du prix Maison Rouge. Il y a beaucoup d'humour aussi, on n'en a pas assez parlé, mais je tiens à le souligner. Merci à notre libraire du jour, Alexandre Dimitrievitch, ainsi qu'à nos partenaires, puisque cette émission émission est coproduite par la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Je salue aussi mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Jérôme Nussbaum à la technique, Estelle Gap, Ophélie Vivier et José Latirefaille alias Jojo. Un grand merci enfin au public de Morges et au Festival Le Livre sur les Quais pour son accueil. Samedi prochain, nous serons au Livre sur la Place à Nancy. À la semaine prochaine.